Et voici le générique d'une première émission, Gilles Lapouge, un écrivain dinois virtuose du paradoxe. C'est une série d'émissions que nous propose Jean-Louis Caribou pour rendre hommage à l'écrivain Jean-Louis Caribou.
Oui, bonjour. Alors effectivement, aujourd'hui, je voudrais évoquer la mémoire de Gilles Lapouge, l'écrivain Gilles Lapouge, à l'occasion du centenaire de sa naissance à Digne, puisqu'il y a presque exactement un siècle qu'il est né à Digne. Il est né hier, il est né le 7 novembre 1923. Et nous sommes le 8, donc c'est très exactement, ou plutôt c'était très exactement hier, son 100e anniversaire. Alors je voulais profiter de cet anniversaire pour évoquer la mémoire de cet écrivain qui en plus était un ami, qui est peu connu. Voilà, donc Gilles Lapouge, d'abord, nous avons célébré, nous avons un petit peu anticipé, nous avons célébré le centenaire de sa naissance avec l'association Culture et Bibliothèque pour tous, il y a un peu plus d'un mois. C'était exactement le 3 octobre, au Richelm, à Digne, toute la journée. Le matin, nous avions une conférence à son sujet avec des lectures de textes choisis de son œuvre. Et l'après-midi, la projection d'un film tourné sur l'écrivain Gilles Lapouge. Voilà, et aujourd'hui, je souhaitais donc réitérer un petit peu cet hommage, puisque c'est quasiment le centenaire de sa naissance. Mais qui est Gilles Lapouge? Alors peu de Dignois et peu de Basalpins connaissent cet écrivain qui est un écrivain du terroir, même s'il a vécu une partie de sa vie au Brésil et à Paris. Mais il est né à Digne. Il est né à Digne, on l'a dit, le 7 novembre 2023.
Et il nous a quittés donc en 2020, c'est ça?
Il est décédé en
2020,
voilà, le 31 juillet 2020. Il a été enterré à Digne selon ses volontés. J'étais d'ailleurs à ses obsèques. Voilà. Il a passé son enfance en Algérie parce que son père était militaire. Mais ses vacances, il venait les passer à Digne. Sa maman était originaire de Digne. Sa maison est bien repérable, elle est bien visible. C'est la fameuse maison avec ce magnifique magnolia, avenue de Verdun. C'est juste à côté de la maison de la poétesse Cécile Sauvage, pour le repérer, où il y a une plaque Cécile Sauvage. Et la maison où Gilles Lapouge venait passer ses vacances en été, c'est donc cette maison avec ce magnifique magnolia dont il parle dans quelques-uns de ses écrits. Voilà. Mais il venait aussi à Chantercier, pendant les vacances d'été. C'est à cette occasion-là que je le recevais pendant plusieurs années. À Chantercier, parce que son grand-père, qui était professeur, possédait une maison dans ce village, à Chantercier. D'ailleurs, Gilles me disait que sa famille était des lointains descendants du célèbre philosophe, mathématicien, astronome Pierre Gassendi. Donc un descendant par la sœur de Pierre Gassendi, pas directement bien sûr de Pierre Gassendi. Voilà. Il fut également élève du lycée Gassendi à Digne pendant la guerre de 1940. Puis, après des études en histoire et géographie, il est parti en 1950 pour le Brésil, où il est devenu rédacteur économique et grand reporter au journal O Estado de São Paulo. Voilà, il en est devenu le correspondant pour l'Europe pendant une quarantaine d'années. Puis il est revenu en France. Enfin, il est revenu en France, il était correspondant tout en étant en France, bien sûr, mais il faisait de fréquents voyages au Brésil. On évoquera quelques textes à ce sujet. Il est revenu en France en 1953 et il a écrit dans plusieurs journaux, dans Combat, Le Monde, Le Figaro littéraire. Et il a voyagé, donc il était répertorié, catalogué dans la série des écrivains voyageurs. Il participait d'ailleurs chaque année au festival des écrivains voyageurs, au célèbre festival de Saint-Malo. Donc il a voyagé en Inde, en Amazonie bien sûr, au Brésil on l'a dit, et en Islande surtout, enfin je dis surtout, il a beaucoup aimé son voyage en Islande où il s'est beaucoup ennuyé, c'est la raison pour laquelle il a beaucoup aimé, on lira peut-être quelques textes à ce sujet. Et puis, il est connu aussi dans le monde littéraire parce qu'il a animé avec Bernard Pivot l'émission « Ouvrez les guillemets » qui a précédé l'émission « Apostrophe ». Et c'était un talentueux touche-à-tout. Il a écrit sur des sujets très divers, une vingtaine d'ouvrages, des romans, des essais, des récits. Je peux en citer quelques-uns. Par exemple, il a écrit sur les pirates. Un soldat en déroute, ça se passe pendant la guerre. La bataille de Wagram. Besoin de mirage, on en lira quelques textes aujourd'hui. Le bruit de la neige, ah, celui-là je l'adore, il est magnifique. La mission des frontières, il est désopilant celui-là. Le dictionnaire amoureux du Brésil, bien sûr, un étrange pays, notre livre qui est savoureux. Et puis, il a obtenu pour l'ensemble de son œuvre de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre. Il a reçu un prix des essais de France Culture pour un de ses derniers livres, L'âne et l'abeille. Et puis, vers la fin de son activité d'écrivain, et d'animateur de radio, il a animé sur France Culture une émission qui s'est intitulée « Un étrange pays », dans laquelle il m'a invité d'ailleurs, que j'ai animé en partie avec lui. Voilà, donc voilà pour l'écrivain, voilà aussi un petit peu pour l'ami, parce que c'est vrai que c'était un ami personnel. Je l'avais rencontré en 2001, où je l'avais accueilni au centre Jean Giono, pour lequel j'étais consultant littéraire. Je l'avais accueilli pour animer une conférence sur les géographies littéraires. C'était devenu un ami et je l'accueillais chez moi à Chantercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant ses vacances tous les étés. Il a eu la gentillesse d'écrire la préface de deux de mes livres, « Marcher en livre à la mer » et « Le refuge du champ du monde ». Il m'avait invité à Paris pour animer son émission, je l'ai déjà dit, « Un étrange pays ». Voilà, et puis j'ai eu l'occasion aussi, pendant un voyage humanitaire que j'avais organisé avec l'association Handicap Évasion 04 à Madagascar, j'avais apporté un conteneur de matériel humanitaire, et dans ce matériel, il y avait énormément de livres que j'avais récoltés dans les établissements scolaires et les bibliothèques des Alpes de Haute-Provence, et j'ai ouvert à Tamatave, donc à Madagascar, une bibliothèque que j'ai baptisée avec la de l'écrivain, bien sûr, que j'ai baptisé la bibliothèque Gilles Lapouge. Voilà, et finalement, j'assistais à son enterrement à Digne, puisqu'il avait souhaité être enterré à Digne. Voilà, alors, juste quelques petits mots avant de proposer quelques textes, quelques lectures extraites de Besoin de Mirage. C'est le livre que j'ai amené aujourd'hui. On en évoquera d'autres les fois suivantes. Alors, comment le définir en quelques mots? Alors, je vais citer quelques lignes d'un critique littéraire qui dit, alors je cite, « Gilles Lapouge est un révolté métaphysique qui mélange temps, espace, gens, événements, barate le tout et redistribue le jeu. » C'est une belle définition. Alors pour moi, plus simplement, je le baptiserai, je le qualifierai plutôt comme un virtuose du paradoxe, du rêve et des mirages partagés entre nostalgie et émerveillement. C'est vrai qu'il est en permanence dans ses écrits nostalgiques des temps passés et puis aussi émerveillé devant toutes les merveilles du monde qu'il découvre à Digne, à Chantercier, mais aussi à l'occasion de ses voyages. Voilà, je vais maintenant proposer quelques lectures extraites de Besoin de Mirage. Alors, j'ai dit qu'il était né à Digne, un premier texte justement à propos de Digne. Alors, Besoin de Mirage. À ma naissance, j'avais surgi à Digne, département des Basses-Alpes, au-dessous de la gare du PLM, à l'ombre de l'énorme magnolia qui fait aujourd'hui encore la gloire de ma mère et qui donne à notre jardin, avec ses quatre allées quadrangulaires, une allure de jardin babylonien et des délices. Pourquoi les Basses-Alpes? Est-ce qu'il y avait eu erreur d'aiguillage? La naissance est une cohue. On est dans une fourmilière de bébés et on fait comme on peut. On a peur, on joue des coudes, on a déjà assez de peine à être, on ne veut pas en plus faire la petite bouche et critiquer l'endroit où l'on vient de surgir. C'est pourquoi tant d'individus s'aperçoivent en leur adolescence qu'ils occupent un destin désaccordé, un destin mal coupé. On arrive à l'enfiler, mais on se contorsionne et il pend aux épaules, il fait des poches, il vous serre. Quand je suis arrivé à Digne, le premier jour, j'étais comme tous les bébés, distrait, saugrenu et narcissique. J'étais résolument étranger aux Basses-Alpes, à leur culture, à leurs odeurs de terre noire, schisteuse, à leurs ammonites et à leurs perdreaux gris, à leur histoire, à Monseigneur Mérieux, que Victor Hugo a introduit dans Les Misérables avec ses couverts d'argent, et même à cette rivière de la Bléone que j'ai traversée 1000 fois par la suite pour aller au lycée Gassendi, et que j'ai aimé et que j'aime, comme si j'en avais décidé moi-même les beaux méandres, et si l'on m'obligeait à perdre Digne, les automnes bourrus du pic de Coire, les amusements des nuages entre le Cousson et Caramantran, on m'arracherait une livre de chair. Mais je n'avais pas le choix, et après quelques années dans la maison Canelle de Goa, est-ce que je me rappellerai même de la Bléone? Alors voilà pour un premier texte à propos de Digne. Je vais en proposer un autre à propos de Champtercier. C'est toujours dans le même ouvrage. Nous quittions Champtercier en automne. Les dernières journées étaient sombres. Nous avions un oncle, l'oncle Georges, que nous adorions, car il était rigolo et mélancolique. Quand venait la fin des vacances, il imposait à tous les cousins et cousines, ceux d'Algérie comme nous, ceux de la Mastre ou ceux de Gonselin, des rituels d'adieu aux arbres. Durant 2 ou 3 jours, nous étions voués à ce long adieu. Nous allions dans le bosquet et nous étions tenus de dire quelque chose à chaque marronnier, à chaque ormeau, au vernis du Japon qui empestait, au mûrier que nous appelions l'arbre de la liberté car il avait été prétendument planté pendant la Révolution, aux 2 cèdres géants du Liban. Ces cèdres étaient pratiques. Ils nous servaient chaque fois que nous avions besoin d'un vertige. Le dernier jour, nous nous juchions sur leurs plus hautes branches. Quelle paix et quelle solitude là-haut. Nous embrassions 100 lieues de fermes d'azur, de troupeaux et de prairies, tout ce que nous aimions en ce monde, et nous allions le perdre à jamais, et je me revois dans le ciel et je pleurais. À chaque arbre, nous avions mission de raconter des histoires et d'adoucir sa tristesse. Nous lui faisions promesse de revenir l'été suivant, mais c'était un mensonge pieux, et je n'étais pas dupe. Il n'y avait pas d'autre été, et tous les étés étaient à l'agonie. J'ai beaucoup pâti dans mon cèdre, mais j'en ai tiré bénéfice, car beaucoup plus tard, en classe de 3e, M. Fabre nous a proposé une phrase de je ne sais quel écrivain. Tout changement, même le plus désiré, est teinté de mélancolie. Et je me suis déchaîné. J'ai déballé mes cèdres, les arbres des feuillets du bosquet, l'oncle rigolo et les quantités d'odeur et de feu d'automne. Mon devoir a frôlé la moyenne. Monsieur Fabre a dit que j'étais sensible comme tout et un peu lyrique. La fin des vacances était une douleur. Nous étions chassés du paradis. Tout allait se dissoudre. Le bruit de la source, les têtards, les osiers, les acacias, les rousseurs de l'iscle, l'odeur si belle, si exaltante et même si historique du cabinet de plein air où nous avions peur quand il fallait y aller la nuit dans le noir, avec tous ces loups qui grognaient partout, les fermes du Trabuc, du Lombard, la croix qui signale la direction de Thoire, et le cantonnier, le Luquin, qui se mettait à casser des cailloux, et dès qu'il voyait une route, et nous le soupçonnions de construire en catébini des routes pendant ces nuits, pour le seul bonheur, le lendemain, de casser de nouveaux cailloux. Nous allions même perdre le Florent Toussaint qui jouait à la pétanque avec moi et qui disait inévitablement, après son premier point, « Un en commençant annonce le beau temps », tout en faisant claquer ses boules l'une contre l'autre avec un sourire menaçant, et nous perdions aussi les chasse-poules dont la meule avait brûlé et les jeunes filles qui jouaient au croquet derrière leurs touillas et leurs cyprès et dont nous n'avions aperçu que les jupes bleues et les soquettes blanches. Alors encore un petit passage, toujours à propos de Chantercier. Le village se déploie en forme d'accordéon. D'autres villages en jaillissent, et je les parcours comme on tourne les pages d'un livre dans l'illuminure. Sous les ruelles de Chantercier grouille un tas de ruelles, en allée ou parfois en avenue, exactement comme sous l'échiquier où s'affrontent les blancs et les noirs, s'empilent des millions de parties inexaucées, de sorte que Chantercier acquiert une dignité inattendue. Pour un peu, j'entamerai une campagne de fouilles afin d'exhumer, sous les ruelles de mon 15 août, les ruelles de mes songes, un peu comme on dégage, sous les vestiges de Troyes ou de Marat, les poussières légères de 5 autres villes, de 10 autres siècles abolies, en suspension dans l'air, miroitant du temps. Ainsi, mon village a-t-il prospéré ? J'en fais ce que je veux, je le dilate, et je l'élargis et je l'allonge à ma guise. Si je désire en augmenter la superficie, je me débrouille pour produire une remembrance de vieillard idiot, une distraction, n'importe quoi. Tout fait l'affaire. Et de nouvelles rues bifurquent et des maisons neuves déjà en fuite se bâtissent et les chemins qui descendent vers la ferme du Trabuc, de l'autre côté du torrent, dans lequel nagent de vieux têtards d'avant-guerre, se ramifient et Chantercier est une ville et une nuit. De ce village, j'ai tiré des Golcondes, des fourmis d'or, des îles au trésor, des pactoles et des Caraïbes. Je l'ai multiplié par 5, par 10, et ses beautés n'ont pas cessé de croître, ses obscurités de s'approfondir, et ses frontières sont les limites de l'illimité. Chantercier est beau comme un désert du Kalahari. Voilà pour Chantercier. La prochaine fois, nous évoquerons d'autres textes extraits d'autres ouvrages, parce que là, aujourd'hui, nous avons cité quelques pages de Besoin de Mirage, mais la prochaine fois, nous évoquerons d'autres ouvrages, comme Un étrange pays, comme le dictionnaire amoureux du Brésil, La mission des frontières. Voilà, et puis pour finir, peut-être une petite anecdote, parce que j'aimais beaucoup Gilles Lapouge pour sa truculence. Il avait toujours des anecdotes qui ressemblaient très souvent au paradoxe dont il était un artiste. Un jour, il me dit, voilà, j'ai envie d'écrire quelque chose à propos des moines copistes du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les moines étaient attelés à un travail fastidieux. Ils copiaient, c'était avant l'invention de l'imprimerie, ils copiaient des textes, ils peignaient des enluminures. C'était du matin au soir, c'était assez ennuyeux, c'était un travail fatigant, fastidieux. Et puis, malgré toute leur attention, toute leur vigilance, de temps en temps, il y avait des coquilles qui se glissaient, il y avait une tache d'encre, il y avait une faute qui s'y glissait, et le père supérieur qui surveillait tout ça les sermonnait. Et les moines, finalement, ils ont trouvé une astuce, ils ont inventé un personnage qu'ils ont appelé Titivilus. Titivilus, alors qui était Titivilus, d'après Gilles Lapouge, d'après ce qu'il me disait, c'était un espèce de petit génie, un petit démon, qui se glissait là sur la table du moine copiste et qui tout d'un coup, hop, il faisait une tache d'encre, hop, il glissait une coquille. Et quand le père supérieur arrivait et sermonnait le moine disait, non mon père, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est Titivilus, c'est Titivilus. Voilà, donc c'était une astuce qu'avaient trouvé les moines copistes du Moyen-Âge. Alors quand Gilles Lapouge m'a raconté ça, j'avais l'impression que c'était une anecdote qu'il avait inventée, parce qu'il aimait beaucoup inventer un monde imaginaire. Je me suis amusé à chercher sur Internet, mais non, effectivement, il y avait effectivement un Titivilus au Moyen-Âge qui accompagnait les moines copistes. C'était un bon prétexte. Alors aujourd'hui, des Titivilus, je crois qu'il en faudrait, parce que pour corriger toutes les fautes que commettent non seulement nos jeunes, mais même les adultes, parce que l'orthographe a tendance à se perdre un petit peu, il serait le bienvenu, le Titivilus, pour qu'on lui rejette la faute de toutes nos erreurs. Alors peut-être une dernière anecdote à propos de Gilles Lapouge, pour terminer sur un ton un petit peu humoristique et plaisant. Voilà, j'avais été invité avec Gilles Lapouge à un salon littéraire à Aix-en-Provence par Paul Constant. Paul Constant est une universitaire qui avait reçu le prix Goncourt pour un de ses romans, dont le nom m'échappe maintenant, mais peu importe. C'était un exposé, une conférence donnée par des écrivains de renom. Donc il y avait elle-même, il y avait Françoise de Chandernagor, il y avait Michel Léon. Il devait y avoir Gilles Lapouge, et le sujet, c'était les géographies littéraires, je crois. Et Gilles Lapouge et moi étions installés dans la salle, et à la tribune intervenaient donc les trois écrivains dont j'ai parlé, Paul Constant, Françoise Chandernagor et Michel Léon. Chacune faisait un exposé, lisait ses notes, c'était très savant. C'était compliqué, ça pouvait être intéressant, mais bon, sans plus, un peu ennuyeux parfois. Et à la fin de chaque intervention, la salle applaudissait poliment. Françoise de Chandernagor, c'est pareil, c'était très savant, mais bon, un peu ennuyeux. Quant à Michel Léon, eh bien, c'était un ton monocorde. On avait l'impression que les gens commençaient à s'endormir un petit peu. Mais bon, malgré tout, la salle applaudissait. Gilles Lapouge, qui était à côté de moi, c'était son tour d'intervenir. Il s'est levé, il est allé à la tribune et s'est assis. Il n'avait pas de papier, pas de dossier, rien. Il a regardé tout le monde, il s'est mis à parler. Il a improvisé, enfin on avait l'impression qu'il improvisait, mais il devait avoir tout dans sa tête. Il a parlé, et tout d'un coup, la salle s'est mise à rire, parce que tout ce qu'il disait était passionnant, était intéressant. Et alors là, tonnerre d'applaudissements, et sa sœur, la sœur de Gilles Lapouge, qui était assise à côté de moi, m'a dit quand même à la fin du tonnerre d'applaudissements, « Ah, c'est quand même lui le meilleur !»
Voilà une belle anecdote. Merci Jean-Louis Caribou et donc on se retrouve pour le prochain hommage à l'écrivain Gilles Lapouge mercredi 6 décembre à 9h30. Merci, au revoir.